Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Moi aussi, j'ai essayé de tenter ma chance avec des copines, trois copines, plus moi, quatre. Deux ont arrivé en Europe, ils sont en France. Une est décédée, moi je suis là.
Témoignage poignant, terriblement émouvant, vous y serez attentif, de cette jeune femme revenue en Guinée après avoir tenté l'immigration. Agressée, violée en Libye, elle est revenue, elle travaille. On verra à quoi ressemblent ces programmes qui essaient de restabiliser ceux qui reviennent, une sorte d'avant-poste en Guinée de ce que veut l'Europe. Sous les radars, et Florence Paracuelos au Brésil, qui va de plus en plus mal, et auprès d'un évangéliste américain qui veut que ses paroissiens lui achètent un jet parce que c'est mieux pour être plus près de Dieu. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter à Londres, avec des conservateurs qui essaient d'attirer les lecteurs, tenez-vous bien, avec du poulet frit. C'est extrêmement sérieux. Et à Beyrouth, avec l'histoire d'un Syrien qui est coincé en Malaisie. 18h55, l'édito d'Olivier Poujade en Espagne ce soir. Mais avant, nous allons en Tunisie. Premier procès de l'ère post-Ben Ali, mais pas seulement. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Le saviez-vous, donc un procès de l'ère post-Ben Ali, le premier procès de l'ère Ben Ali, s'est ouvert en Tunisie mardi. Alors, premier, pas tout à fait d'ailleurs, on y reviendra dans un instant.
Oui,
j'allais dire le saviez-vous, parce qu'on est quasiment passé à côté, en fait. Évidemment que Ben Ali n'y est pas, ni d'ailleurs les principaux accusés, mais enfin, quand même, c'est aussi le premier procès de justice transitionnelle en Tunisie, après que l'instance Vérité et Dignité, mise en place après la Révolution, sur le modèle de Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, et puis enfin, correctement, une instance Vérité et Dignité destinée à solder les comptes du passé dont on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'elle deviendra à terme, qui vient d'avoir une sorte de sursis. Bonjour Sophie Bessis.
Bonjour.
Bonsoir d'ailleurs, vous êtes historienne, journaliste franco-tunisienne, pardon. Effectivement, ce n'est pas le premier procès.
Non, il y a eu plusieurs procès
et il y a eu condamnation d'ailleurs.
Pas longtemps après la Révolution qui a condamné. Il n'y a pas eu de procès global contre les responsables du régime, à commencer par Ben Ali, qui a été condamné à des peines pour détournement de fonds. Enfin, il n'y a pas eu de vrai procès politique, disons.
Et là, commence
on peut
une
parler
série
de premier procès, voilà. Là, dans la mesure où c'est le premier dossier renvoyé en justice par l'instance Vérité et Réconciliation.
Et c'est ça qui est important.
Et c'est ça qui est important, effectivement, dans la mesure où cette instance a la possibilité, enfin parmi ses prérogatives, a la possibilité, de, après avoir auditionné plus de 50 000 personnes, création, elle a la possibilité de renvoyer des dossiers devant la justice. Et là, c'est donc un dossier qui concerne un certain nombre d'inculpés et au sujet de la disparition d'un dirigeant islamiste qui a disparu, qui a été torturé, qui n'a plus jamais reparu.
Torturé mort, voilà. Qui s'appelait Kamel Matmani.
Absolument. Voilà. Et donc ce procès, bon, a été renvoyé là au 10 juillet. Hein, il y a eu la première audience. Il est très médiatisé en Tunisie.
Très médiatisé, très suivi, salle bondée, des gens dehors, etc.
Absolument. Parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Vous parliez de j'emploierai le terme de solder les comptes, c'est tout à fait ça, on ne les solde jamais. Mais il est important que ce procès ait lieu et que ce procès concerne non plus seulement les forfaitures politiques et financières de la dictature de Ben Ali, mais la torture et la violation des droits humains. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que si ce procès arrive à son terme, hein, parce que les inculpés ne sont pas là, parce que il y a beaucoup de problèmes, parce que il va y avoir des stratégies de blocage, évidemment. Mais enfin, que ce procès puisse se tenir, qu'il ait été ouvert, est déjà une chose très importante.
On va y revenir dans un instant avec Amna Gelali de Human Rights Watch. Parce que ce qui est important aussi, Sophie Bessis, c'est que cette commission Vérité puisse mettre en place ce genre de procès, parce que on a cru un moment
c'est
que
pas
c'était
à elle
fini.
De mettre en place. Alors, elle peut simplement renvoyer les dossiers devant la justice.
Sauf qu'elle a failli disparaître cette
oui, mais c'est normal, ça, si vous voulez.
Enfin,
c'est-à-dire que cette commission, alors, je pense, cette instance, hein, c'est pas une commission, donc c'est une le terme d'instance veut signifier qu'elle a de l'autorité, de l'autonomie par rapport au pouvoir, etc. Donc c'est pas simplement une commission. Dans les attendus de sa création, il était inscrit qu'elle ne serait pas éternelle. Donc il y a une controverse, disons, sur la date jusqu'à laquelle elle peut fonctionner, étant entendu qu'elle ne devait pas être éternelle. Et donc la bagarre, c'est entre le 31 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, et le 31 décembre, en gros. Alors, l'Assemblée des représentants du peuple, puisque c'est ainsi qu'on appelle le Parlement en Tunisie, a voté il y a peu, à l'occasion d'une séance tout à fait surréaliste d'ailleurs, qui ressemblait plus, disons, à un marché qu'à une séance d'un Parlement, la fin de l'instance, au grand dam de la présidente de l'instance, qui estimait n'avoir pas fini son travail et qui demandait une rallonge. Il semblerait qu'aujourd'hui, même si juridiquement l'instance n'a plus d'existence à partir d'aujourd'hui, il y ait un agrément entre le ministre chargé des relations avec la société civile et les instances et la présidente de l'instance, selon lequel elle pourra continuer à clore ses derniers dossiers.
Mais alors justement, ça veut dire qu'on ne touche pas, on est sûr qu'on n'y touche pas avant que les derniers dossiers soient clos et que d'autres procédures soient lancées comme celle qui a démarré là.
Ce qu'ont dit un certain nombre de responsables, c'est qu'ils n'allaient pas envoyer mettre les scellés devant les délais. Mmh. Bon, je pense que maintenant, cela dit, l'instance n'a pas vocation à durer au-delà d'un certain nombre de mois encore. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle a instruit, ou elle a écouté plutôt, plus de 50 000 personnes. Elle a des archives absolument pharaoniques. Elle a fait une grande partie du travail, la majeure partie du travail.
62 000 dossiers, effectivement, 50 000 personnes entendues, 62 000 dossiers.
Donc c'est très important, effectivement, ces archives doivent être reversées aux archives nationales.
Mais ça
maintenant
paraît tellement énorme, en fait. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette masse-là,
c'est
réellement
énorme,
en fait.
Parce que disons que, et ça a été un grand sujet de bagarre en Tunisie, la période pendant laquelle l'instance devait regarder les violations des droits humains, etc., est une période très longue et qui commence, ce qui est une absurdité totale d'ailleurs, hein, mais ça c'est la loi de création de l'instance qui est une absurdité totale, elle commence avant l'indépendance.
Sophie Bessis, l'idée c'est quoi? Est-ce que c'est punir? Est-ce que c'est déconstruire un système? Tout simplement mettre les choses à plat, que les choses soient bien claires une fois pour toutes? Est-ce que c'est exorciser d'une certaine façon ce qui s'est passé
c'est
pendant ces années-là? Est-ce qu'il faut un pardon? Est-ce qu'il faut des condamnations?
Alors,
qu'est-ce qu'il faut au bout de ça en fait?
Justement, toutes ces questions que vous posez sont extrêmement intéressantes dans la mesure où vous parliez de la référence à l'Afrique du Sud tout à l'heure.
Ce n'est pas celui-là.
Tout à fait la même chose. Je crois que la référence des références, c'est effectivement la commission sud-africaine qui était une commission axée sur la réconciliation.
Ça s'appelait
nationale.
Comme ça d'ailleurs, vérité et réconciliation. Ça voulait dire quelque chose.
C'est pas tant que là, c'est vérité et dignité.
Exactement.
Non, c'est pas pareil.
Exactement.
Et effectivement, peut-être ce qu'on peut reprocher à cette instance tunisienne, même si elle a fait de l'excellent boulot par ailleurs, et il faut surtout rappeler qu'elle a fait de l'excellent travail, c'est que ça a été en définitive une commission beaucoup plus clivante que réconciliatrice. Et il y a eu des moments très clivants parce que justement sa surface, disons, chronologique est très étendue, remonte, je vous le disais, avant l'indépendance. On s'est posé la question de savoir pourquoi. Après tout, il n'y avait pas d'État tunisien en 1955. Comment peut-on incriminer des actes d'un État qui n'existe pas, par exemple? Donc il y a beaucoup de problèmes. Je ne crois pas que cette commission, cette instance, pardon, ait servi pour l'instant à la réconciliation, mais elle permet d'établir des vérités. Elle permet de refaire l'histoire d'un pays qui, depuis l'indépendance, n'a connu que des régimes autoritaires et qui ont employé les méthodes les plus contestables pour demeurer au pouvoir jusqu'en 2011. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important.
Sophie Bessis, vous restez avec nous, bien sûr. Bonsoir, Amna Ghilali.
Bonsoir.
Pour Human Rights Watch, en direct avec nous depuis Tunis, il y a l'idée aussi derrière, vous m'arrêterez si je me trompe, du rôle crucial dans la transition démocratique. Finalement, ce passage-là, ce passage vers cette commission instance était évidemment fondamental.
Oui, disons que l'instance Vérité et Dignité, effectivement, c'est bien de rappeler l'intitulé exact de cette instance, joue un rôle essentiel d'abord dans la révélation de la vérité, parce que effectivement, on connaissait quelques petits bouts de ce qui se passait, disons, dans les géoles tunisiennes, dans les lieux de torture, on connaissait les noms de certaines victimes, on connaissait les noms de certains bourreaux, mais le portrait total de l'ampleur de ces violations, de l'ampleur de la machine de la répression. Elle n'était pas si claire que ça dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Tunisiens, dans l'esprit dans la conscience collective. Et donc il était très important d'aller vraiment chercher tous ces éléments pour les mettre ensemble et faire le portrait de la machine répressive. Je pense que oui.
Pardon de vous avoir interrompu. Je voulais vous poser la même question que je posais à l'instant à Sophie Bessis. Est-ce que l'idée, au bout du compte, c'est d'arriver à des condamnations, c'est de réellement punir, ou c'est d'avoir mis les choses sur la table, d'avoir aussi réussi à prouver que la justice peut être indépendante? Est-ce que c'est finalement tout ça plus important qu'une condamnation qui sort? Plusieurs, en fait, d'ailleurs, évidemment.
Oui, d'accord. Je rejoins, en fait, ce que disait Madame Sophie Bessis tout à l'heure, que c'était tout ça ensemble. Et c'est le propre de la justice transitionnelle, en fait, dans tous les systèmes qui sont passés par la justice transitionnelle et dans la doxa de la justice transitionnelle dans le monde, il y a quatre piliers essentiels de cette justice. Lorsque un État sort d'une situation de répression, de dictature ou de conflit armé, quatre éléments sont essentiels pour reconstruire un pays. D'abord, il faut la révélation de la vérité, parce que c'est une manière de voir en face dans la monstruosité de ce système répressif et de le déconstruire. Mmh. La deuxième chose, c'est de mettre fin à l'impunité et d'aller vers des procès, vers la justice, de renforcer le rôle de la justice dans la redevabilité, et ça c'est très très important. Le troisième élément, ce sont des réparations, parce que les victimes ont également besoin de réparations. Et le quatrième élément, c'est garantir la non-répétition, c'est-à-dire qu'il ne faut plus revenir à ce système, et comment ne plus revenir à ce système? C'est en déconstruisant les racines du mal, c'est en les arrachant, c'est en voyant en quoi les institutions de l'État, les personnes qui étaient en charge de conduire l'État étaient impliquées, comment ne plus revenir vers ça en faisant une réforme des institutions, en faisant une réforme de la justice, etc. C'est pour ça d'ailleurs que ces procès sont si importants que ça, parce que on sait tous que la justice en Tunisie a été un instrument, un des piliers de la répression, un des piliers, de la machine répressive, parce qu'elle a été instrumentalisée par le système de Ben Ali, par le pouvoir. Il y avait des procès politiques, la justice n'était pas indépendante. Et là, c'est un texte pour la justice tunisienne dans son ensemble. Ce n'est pas simplement un procès qui va rendre justice aux victimes, c'est un procès qui va rendre justice au pays, à la justice elle-même, c'est-à-dire qui va relancer la justice sur de nouvelles bases, qui va lui permettre de se refaire en quelque sorte.
Merci beaucoup, Amna Ghelali du HCR, du Human Rights Watch. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sophie Bessis, l'idée que grâce à ça, on ne peut plus revenir en arrière, en fait. Aussi, ce genre de procès, c'est une manière de dire, il n'y aura pas un après.
Je ferai plusieurs remarques. Bon, d'abord, dans toutes les dictatures, la justice n'est pas indépendante, elle est instrumentalisée. Et disons que c'est bien pour ça, d'ailleurs, que des commissions de ce type ont existé et existent dans plusieurs pays. Bien c'est sûr. Bien parce que c'est malheureusement ces périodes de dictature qui utilisent la peur, la répression, la torture.
L'Afrique du Sud, Rwanda,
ont été au cours des 60-70 dernières années extrêmement courantes. Que c'est un vœu pieux, bien sûr. Il est évident que un pays en voie de démocratisation, comme essaye de le faire la Tunisie aujourd'hui avec des fortunes diverses, vous le savez, mais enfin qui essaye quand même, est un pays qui doit construire des institutions assez puissantes pour interdire le retour à des régimes et à des pratiques dictatoriales. Parce qu'effectivement, je crois que une dictature n'est pas un propre d'une société ou d'un pays de ce qu'on appelle le tiers-monde, et que partout dans le monde, il y a des hommes, des systèmes, des intérêts qui ont tout intérêt à mettre en place des dictatures. Les institutions peuvent les bloquer. Aujourd'hui, la Tunisie construit des institutions. Maintenant, il y a une chose. Les réparations matérielles, à mon sens, ne sont pas... Il y en a eu beaucoup déjà. Hein. Ouais. À l'époque du gouvernement de la Troïka, un certain nombre de gens, appartenant essentiellement, il faut le dire, au parti islamiste, ont déjà touché d'importantes réparations matérielles. Et en revanche, les militants de gauche de l'époque de Bourguiba, qui ont également été auditionnés, etc., ont refusé de toucher des réparations matérielles. Je voudrais quand même le dire. Alors, il y a des cas, évidemment, où elles sont absolument indispensables, mais c'est la réparation symbolique qui m'apparaît beaucoup plus importante que la réparation matérielle.
Alors, quand même, une toute dernière question, parce que c'est bien aussi là que le bât blesse. Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes dans ces dossiers qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, qui y sont revenues, qui sont là, toujours, dans le gouvernement tunisien, et très
toujours,
près,
je dirais qu'ils sont
ou
là
pas loin,
nouveau.
Ou de nouveau.
Bah, écoutez, dans n'importe quel
pays. Ça fausse un peu le jeu, tout ça.
Dans quel, oui, mais dans n'importe quel pays, à la chute d'une dictature, on n'a jamais viré toute l'administration d'un pays. C'est absolument impossible. Il y a des dizaines et des centaines de milliers de gens. Il est bien évident que l'administration demeure. Bon, ce qu'il faut, c'est couper les têtes, au sens purement symbolique
du
terme. Hein, je suis contre la peine de mort, il n'y a aucun problème. Bon, donc, alors, là, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie depuis quelques années? C'est qu'effectivement, on a vu revenir, sans qu'ils aient fait le moins du monde amende honorable, un certain nombre de hiérarques de l'ancien régime, et il est évident que le parti du président de la République, c'est pas le seul, hein, mais a recyclé des personnalités de l'ancien régime. Alors, bien entendu, toutes ces personnalités de l'ancien régime et les niveaux au-dessous n'ont aucun intérêt à ce que la vérité apparaisse, et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a des blocages, des toutes sortes de résistances à ce que ces vérités apparaissent. Bien, le propre d'un état de droit, d'une justice indépendante, d'une société civile qui fait son travail, c'est d'essayer d'aller à l'encontre de ces résistances qui sont effectivement portées par un certain nombre de personnes de l'ancien régime, c'est l'évidence.
Et on pourra juger en tout cas de l'efficacité de tout ça, de ce que ça donnera pour ce pays, la Tunisie, dont on aura largement l'occasion de revenir et de reparler dans Un jour dans le monde.
Je l'espère.
Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Guinée avec un reportage fascinant. Vous allez voir ces migrants qui reviennent en arrière, qui retournent en Guinée après souvent des passages extrêmement difficiles en Libye. Et toute la difficulté, c'est de les aider à rester, à suivre aussi. Florence Paracuello, c'est au Brésil et en jet, figurez-vous, aux États-Unis. La carte blanche des correspondants de France Inter avec un migrant syrien coincé dans un aéroport de Malaisie et des conservateurs anglais qui promettent du poulet frites, mais oui, à leurs adhérents. Et puis Olivier Pouget, bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
L'Espagne dans votre édito de ce soir, peut-être un gouvernement mal en point ou pas?
Oui, totalement mal en point, même les heures du Premier ministre Rajoy sont comptées. Scandale de corruption, motion de censure, le socialiste Pedro Sanchez pourrait prendre sa place. Et grâce à qui? Grâce à qui, Fabienne?
Grâce à ceux qui sont sur le côté.
Réponse dans une vingtaine de minutes.
Allez, le tour de la planète continue avec The Kingsman, Louis Louis.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Good evening and welcome. Florence Paracuello, direction le Brésil d'abord. Le Brésil au crépuscule du président Temer.
Michel Temer, souvenez-vous, qui avait succédé à Dilma Rousseff, destitué pour avoir maquillé les comptes du pays. Lui-même s'est retrouvé impliqué dans un vaste scandale de corruption il y a un an avec 9 de ses ministres. Il est tellement impopulaire qu'il ne se présentera pas à la présidentielle du mois d'octobre. Et le voilà embourbé dans de très lourds conflits sociaux. Une grève des routiers qui a paralysé le pays pendant 10 jours. Plus d'essence, plus de produits frais sur les étals des marchés. Mais malgré tout, 87% de la population soutenait les grévistes. Leur demande d'une baisse du prix du gasoil qui a considérablement augmenté ces 2 dernières années. Du coup, Temer a fini par tout céder dimanche.
La première revendication.
C'est la première revendication des routiers. Le prix du diesel va baisser de 46 centimes le litre pour que chaque camionneur prenne exactement la mesure de la baisse au moment où il fera le plein. Donc les routiers ont repris le travail, mais les salariés du secteur pétrolier ont pris le relais aussi, demandent la baisse des prix du carburant fourni par la compagnie publique Petrobras, à l'origine de la plus grosse entreprise de corruption de toute l'Amérique latine, ce qui ne l'a pas aidé à faire des affaires, puisqu'il y a 2 ans, ses pertes étaient colossales, qu'il a donc fallu qu'elle vende ses actifs et qu'elle aligne ses prix sur les cours internationaux du pétrole. Tout cela donne un cocktail explosif qui se retourne in fine contre le président Temer. C'est lui désormais que visent les grévistes. Temer dehors. Les plus extrémistes en appellent à l'armée pour renverser le président dans un pays qui a connu 20 ans de dictature militaire. C'est dire l'état de déliquescence du Brésil en ce printemps 2018.
Plus près de toi, mon Dieu, aux États-Unis, un télévangéliste, Florence, fait la quête pour se payer un jet.
Eh ben oui, alors il en a déjà 3 des jets. Oui, mais Jesse Duplantis, d'ailleurs, c'est devant leur photo qu'il a enregistré sa vidéo d'appel au don. Son dernier appareil, c'est un Falcon 50 qui ne lui permet pas de parcourir le monde en vol direct. Pour lui délivrer la parole de Dieu, il faut qu'il fasse des escales. Donc ce qu'il lui faut maintenant, c'est un meilleur appareil, c'est un Falcon 7X à 54 millions de dollars. D'ailleurs, c'est Dieu qui l'a choisi pour lui. Il m'a dit, Jesse, tu veux venir me voir là-haut? J'ai dit, oui, mon Dieu. Il a dit, je veux que tu croies en un Falcon 7X. J'ai dit, ok, mais comment je vais le payer? Il a dit, Jesse, je ne te demande pas de le payer, je te demande d'y croire.
C'est formidable.
Donc il y croit, Jesse Duplantis. Pasteur aux 200 000 fidèles catholiques, son émission est largement diffusée sur les télés américaines et pour appuyer son appel au don, il a un argument imparable. Je crois vraiment que si Jésus était sur terre, il ne serait pas sur un âne. Réfléchissez-y, il serait dans un avion pour prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Effectivement.
Bah oui, en même temps.
Ça vous rappelle pas quelque chose, Fabienne?
Bah ça me rappelle que moi, je voudrais une nouvelle moto. Je vous dis ça juste comme ça au passage.
Et faites-en ce que vous voulez, Florence. Janis Joplin, en 70, qu'est-ce qu'elle voulait?
Une Mercedes-Benz.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.
Et vous savez quoi? Je crois qu'elle l'a pas eu.
Janice. Alors que Jesse, il aura sans doute son Falcon.
Vous qu'il aura son Falcon? Ouais, oui. La vie est tellement injuste. Merci Florence.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Prêtez attention à ce qui va suivre et aux témoignages que vous allez entendre, ça se passe en Guinée. La Guinée, c'est le pays qui, en 2017, envoyait, on met des guillemets, plus de 13 000 personnes sur les côtes italiennes. Aujourd'hui, on inverse le phénomène. Certains migrants sont en train de revenir. Souvent, ils ont traversé la Libye et plus jamais. En Guinée, ils sont plus de 6 000 à être rentrés depuis janvier dernier. Bonsoir Agnès Fèvre.
Bonsoir.
Agnès, ces retours, ce sont des opérations qui sont financées par le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne, confiées à une organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Mais il ne suffit pas de rapatrier ces jeunes gens, il faut aussi les stabiliser. En novembre dernier, un nouveau fonds, 65 millions d'euros cette fois, a été débloqué pour la création d'emplois en Guinée. On est totalement dans ce que souhaiterait l'Europe et voici comment ça marche.
Avec leurs gilets jaunes, on ne voit que sur cette plage de Rogbané, jonchée de déchets. En tout, 500 migrants vont nettoyer 5 sites durant 45 jours pour gagner de l'argent et en mettre une partie de côté, oui. Mais l'objectif, c'est surtout de créer du lien et de développer à plusieurs un projet de petite entreprise. Le jour du lancement de l'opération, il y a cette jeune fille, un peu gênée, les yeux baissés. Elle dit venir pour son frère malade. Le lendemain matin, pourtant, on la retrouve en train de bêcher le sable noir compact. Et tout à coup, elle lâche...
Je déteste les Libyens. Ce sont des monstres. Il n'y a pas ce qu'on ne nous a pas fait.
en Libye. Je préfère mourir ici.
Fatoumata n'a pas encore 18 ans. Elle a été rapatriée de Libye où elle est restée environ une année. Elle avait quitté la Guinée pour échapper à un mariage forcé.
Moi, mon souhait, c'est étudier d'abord. Même si je veux me marier, mais c'est après mes études.
Et quand vous avez fui la Guinée, qu'est-ce que vous aviez en tête? Vous vous disiez que vous pourriez aller dans un pays européen pour étudier?
Oui, pour étudier, oui, c'était mon rêve.
Et vous saviez que ce serait si difficile d'aller là-bas?
Je savais, j'étais au courant, on me disait. Mais moi aussi, j'ai essayé de tenter ma chance. Oui.
Vous êtes partie avec des gens que vous connaissiez ou toute seule?
Avec des copines, 3 copines, plus moi, 4. 2 ont arrivé en Europe. Ils sont en France. Une est décédée. Moi, je suis là.
Elle est décédée dans quelles circonstances?
On l'a violée, maltraitée. Elle ne mange pas, elle souffre. Elle ne boit pas, même manger, c'était pas facile. Elle n'a pas tenu le coup. Elle est décédée.
Là-bas, ils ne sont pas traités très bien. Vous voyez, ils pensent que l'être humain noir n'est pas un être humain. Ils ne considèrent pas.
Abdoulaye Camara a 22 ans et comme Fatoumata, il veut reprendre ses études. Il rêve, lui, de cinéma, ce qui ne cadre pas trop avec les objectifs de l'OIM, qui mise plutôt sur des projets collectifs, comme l'explique le chef de projet Idrissa Sampare.
Nous avons déjà financé des gens qui sont venus nous voir avec des projets bien ficelés, mais la majorité, qu'on a réintégrés de façon individuelle, 3 mois après, ils étaient déjà partis.
Ils étaient repartis en émigration?
Ouais, ils cherchent de quoi se financer pour repartir. Donc, c'est pas le but. En les mettant ensemble, ce risque-là, on le réduit. Parce que lorsqu'il y a plusieurs personnalités, il est beaucoup plus compliqué de mettre toute l'affaire à l'eau. C'est bien pour ça que lorsqu'ils sont mis en groupement d'intérêt économique, nous signons avec un protocole d'accord. Il est stipulé que l'affaire et les équipements, le matériel et tout ce qui est contenu dans leur projet ne leur appartient qu'après 18 mois. C'est pour susciter vraiment chez eux le sens de responsabilité. On veut vraiment qu'ils comprennent que nous sommes là pour les accompagner, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils s'en sortent tout seuls.
Moussa Dafé se croyait près du but quand il a enfin embarqué sur un Zodiac à destination de l'Italie, mais il a été intercepté en mer par les Asma Boys, ce réseau de kidnappeurs libyens hyper armés. Aujourd'hui, de retour en famille, il a décidé de s'investir dans l'agriculture avec 5 autres migrants.
Bon, c'est ma première fois de faire l'agriculture. Et compte tenu du pays, donc il y a trop de soumaza. Donc c'est pour cela que j'ai préféré de prendre l'agriculture. Parce que chaque fois vous êtes dans l'activité, vous travaillez. Donc on a fait ça, une formation de 10 jours. Elle nous a donné comment gérer l'entrepreneuriat, comment faire l'agriculture. Bon, on est dans la culture maraîchère.
Ça se vend bien, il y a de la demande?
Oui, oui, ça marche très bien.
Mara Faceli projette, lui, d'ouvrir en mai un restaurant avec 3 autres collègues rapatriés. Il va s'appeler Migrant Guinée. Visite dans le quartier de Kipé.
C'est l'endroit qu'on appelle Havana Beach. C'est ce qu'on a choisi de faire notre restaurant.
Donc pour l'instant, c'est une épicerie, hein?
Oui, c'est un magasin. Pour le moment, c'est équipé. Vous voyez comment c'est équipé?
C'est une grande salle.
Oui, c'est une grande salle. Bon, l'espace, elle est très vaste, elle est très grande, elle est très vitale aussi. C'est ici qu'on va faire le comptoir. Ici sera la cuisine. En même temps, ici maintenant, c'est la place des clients. Moi, je vais être ici pour attirer la clientèle. En même temps, gérant principal.
Comment ça vous est venu l'idée de restaurant?
Parce que j'ai fait la restauration à l'université. J'ai fini des études, je n'ai pas eu de travail. Je suis parti à l'extérieur pour travailler. Je n'ai pas eu de travail à l'extérieur. Maintenant, je suis resté là-bas. Bon, on m'a rapatrié, je suis venu en Guinée-Conakry. Maintenant, je vais montrer réellement à la population guinéenne que ce que j'ai maîtrisé à l'université, c'est mon travail, c'est mon métier, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Je vais leur donner le fruit.
Mais avant de partir en aventure, vous n'aviez pas eu l'idée de monter un restaurant, monter quelque chose?
Avant d'aller en aventure, je n'ai pas eu d'autres moyens, parce que je n'avais pas de financement, je n'avais pas d'argent. En même temps, mes parents n'ont pas d'argent, je ne pouvais pas montrer mon projet. Mais comme l'OIM et l'Union européenne ont dit qu'ils vont me financer, c'est pour cela que j'ai pris cette initiative-là pour faire la restauration.
C'est ça qui vous manquait, c'était le financement?
Oui, c'est le financement qui nous manquait beaucoup, le financement beaucoup.
Chaque samedi, les migrants sont aussi chargés de sensibiliser dans les quartiers, dans leurs familles, aux dangers de l'émigration illégale. Une lourde responsabilité pour ces jeunes femmes et jeunes hommes, souvent fragiles et démunis, ainsi que pour l'OIM. Ces acteurs, seuls sur le terrain, sont aujourd'hui aux avant-postes de la politique migratoire de l'Union européenne.
Agnès Fèvre pour ce reportage dans Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup. Rex Orange Conti sur France Inter. Loving is easy, paraît-il.
Ouais.
Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard. Loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Listen, girl, when you can't even hide it, and it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time, on time. So loving.
Rex Orange Conti sur France Inter, Loving is Easy.
Power Hit Radio. BBC News,
Al Jazeera,
CBS Morning News.
France Inter,
Public Broadcasting.
Le 18-20.
Equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
Carte blanche des correspondants de France Inter à Londres et à Beyrouth. Ce soir, tiens, Beyrouth, c'est par là qu'on commence à écouter ça. Bonsoir Omar Waman.
Et bonsoir Fabienne.
Qu'est-ce qu'on entend, Omar, ici derrière nous? Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, il s'appelle Hassan Kontar. Il a 36 ans. Il vit dans la salle de transit de l'aéroport international de Kuala Lumpur depuis le 7 mars dernier, sans visa, un passeport syrien périmé. Hassan Kontar dort sur un matelas de fortune, se lave la nuit dans les toilettes du terminal, une vie rythmée par la voix de l'hôtesse qu'il ne peut plus supporter.
C'est infernal, c'est la nuit, le jour, 24 heures sur 24, même dans les toilettes, c'est insupportable. Et à chaque fois, ça me rappelle ma situation. Au début, je rêvais que mon nom soit appelé pour embarquer dans un avion. Mais depuis, j'ai progressivement perdu tout espoir et c'est devenu très très énervant.
Alors, Hassan Kontar était étudiant en droit à Damas. En 2006, après ses études, il a fui la Syrie car il ne voulait pas faire son service militaire. Il s'est installé aux Émirats Arabes Unis où il a travaillé dans une société d'assurance. Sa vie a basculé lorsque son passeport est arrivé à expiration. L'ambassade syrienne à Abu Dhabi a alors refusé de le renouveler. Plusieurs fois menacé d'expulsion, il parvient a quitté les Émirats Arabes Unis pour la Malaisie, le seul pays pour lequel il pouvait embarquer. Mais sans passeport valide, il est contraint depuis de vivre coincé dans cette zone de transit.
Le monde extérieur me manque beaucoup. Avoir un lit propre, prendre un repas chaud, une douche, marcher dans la rue comme tout le monde, parler avec des gens, boire un café comme n'importe qui. Je ne peux pas retourner en Syrie, car je suis recherché par le régime parce que j'ai fui le pays. Je ne voulais pas faire mon service militaire. De mon point de vue, depuis la chaise sur laquelle je suis assis, dans cet aéroport international de Kuala Lumpur, je peux vous dire qu'être syrien, c'est être abandonné, rejeté, indésirable, haï. est totalement seul.
Ce qui est terrible, c'est que ça nous rappelle un film, Omar, ça s'appelle Le Terminal de Spielberg avec Tom Hanks, c'était en 2004, mais c'est pas la première fois depuis le début de la guerre en Syrie que des Syriens se retrouvent coincés dans des aéroports internationaux, faute de passeport valide.
Oui, ces dernières années, on a dénombré plusieurs cas semblables. Il y a d'abord l'histoire incroyable de Fadi Mansour qui a passé 12 mois, un an, bloqué dans l'aéroport d'Istanbul en Turquie. On a également des informations fiables concernant un certain Hassan Yazien qui a quant à lui vécu 9 mois dans une tente au sein de l'aéroport de Moscou en Russie.
Omar Waman à Beyrouth pour France Inter. Merci beaucoup. Omar, et bonsoir Londres, bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir Fabienne.
Antoine, on sait déjà qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, mais chez vous et chez les conservateurs, on attrape des adhérents avec du poulet, sérieusement.
Absolument, c'est la dernière idée du parti au pouvoir pour faire augmenter le nombre d'adhérents en échange d'une cotisation annuelle de 28 euros. Le parti conservateur veut offrir aux nouveaux membres une carte de réduction avec un système de partenariat dans plusieurs chaînes de magasins d'habillement, de nourriture ou dans les restaurants comme Nantes Dose qui sert essentiellement du poulet mariné, tarif spécial conservateur, explique le Times, pour attirer les jeunes. Parce qu'il y a urgence, les Tories ont perdu massivement des voix aux dernières législatives anticipées. Ils ne comptent aujourd'hui que 124 000 adhérents contre 550 000 pour les travaillistes. Et la cellule des jeunes conservateurs a en plus été dissoute en 2015 après le suicide d'un jeune homme qui était victime d'intimidation. Alors, cette idée de carte de réduction est censée attirer des étudiants et des jeunes actifs. Le problème, c'est qu'elle est sortie dans la presse avant la signature des partenariats avec les marques et que les restaurants Nando's démentent vigoureusement tout lien avec les conservateurs. Nous avons déjà une carte de fidélité, déclare le porte-parole de la chaîne. Nous offrons un rabais de 20% à la police, aux pompiers, au personnel de santé. En revanche, aucune réduction politique.
Eh ben c'est comme ça et c'est pas autrement. Pendant ce temps, les travaillistes, eux, Antoine, se lancent dans l'organisation d'un festival.
Et là, tout est parti de la prestation de Jeremy Corbyn, acclamé sur la scène du festival de Glastonbury. Souvenez-vous, l'an dernier, on a vu les images de milliers d'ados, d'étudiants en train de hurler devant la scène. Le chef de file des travaillistes pris en photo avec des rockstars. Et du coup, les responsables du parti de gauche ont décidé cette année d'organiser leur propre événement. Ce sera le 16 juin. Ils ont réservé un emplacement à Tottenham. Ils ont loué du matériel. Ils ont imprimé des affiches et des billets vendus 40 euros. Ils ont demandé à des responsables politiques de venir parler à la tribune. Ils n'ont oublié qu'une chose, les musiciens. Parce qu'il n'y a dans ce festival aucune tête d'affiche. Écoutez. Ce groupe, c'est les Magic Numbers,
d'accord,
à peu près inconnus
tout à fait
ici,
connu, voilà.
Comme en France. On a aussi Sam Fender, Ray Morris, Jermaine Jackman. En fait, la seule sympathisante de gauche vraiment connue des Londoniens, Lily Allen, ne sera pas là. Résultat, les billets ne se vendent pas. Le site a une capacité de 20 000 places. 2500 tickets seulement ont pour l'instant été vendus. Le Parti travailliste pourrait perdre près d'1 200 000 euros. Pour limiter la casse, le syndicat Unite, proche des travaillistes, a tout de même acheté 1000 billets pour les distribuer aux adhérents. Mais ça ne sauvera sans doute pas l'événement.
Allez, très très vite Antoine, parce qu'on est en retard, un chiffre pour terminer, 24 milliards hein.
24 milliards d'euros, ouais, c'est le total de la fortune des universités d'Oxford et de Cambridge, avec les bâtiments mais aussi des réserves d'argent qui pourraient payer tous les frais de scolarité de l'ensemble des étudiants dans l'ensemble du Royaume-Uni pendant un an. C'est ce que dit le Guardian. Et ça fait polémique parce qu'ici, évidemment, la scolarité coûte de plus en plus cher. Et ça pourrait être une solution pour débloquer la crise.
Antoine Gignot sur France Inter dans Un jour dans le monde. Merci Antoine.
Le téléphone sonne. Fabienne Synthès sur France Inter.
Voilà, le téléphone sonne, c'est juste un peu plus tard, mais c'est pas grave, c'est toujours moi. Et bonsoir Olivier Pujadro,
bonsoir
l'édito d'Olivier. Le sort du premier ministre espagnol Mariano Rajoy, Olivier, se décide en ce moment. Ça se passe au Congrès espagnol, une motion de censure qui sera votée demain après-midi, une motion déposée par le socialiste Pedro Sanchez. Peu de chances d'aboutir, ça c'était pour le début de semaine, et puis patatras un peu, non? Qu'est-ce qu'elle dit cette motion?
Eh bien, elle nous dit que l'Espagne est politiquement figée, Fabienne, ingouvernable, que le moindre petit grain de sable suffit à bloquer le gouvernement. Mais là, Fabienne, c'est carrément toute la Concha, la célèbre plage de San Sébastien, qui d'un coup s'est déversée dans la chaussure de Rajoy. Un scandale de corruption, la condamnation par la justice d'une douzaine de cadres et d'élus du PP, le Parti Populaire, la révélation de l'existence d'une caisse noire, d'un authentique, et je cite la justice espagnole, d'un authentique et efficace système de corruption institutionnelle via la manipulation de marchés publics. Sentence claire, nette et sans équivoque, une condamnation cumulée à plus de 350 ans de prison pour ces représentants de la droite conservatrice espagnole dans une affaire de corruption qui colle au basque du Parti Populaire, comme un peu, vous le savez, le sparadrap au doigt du capitaine Haddock.
Fameux sparadrap. Donc soyez sympa, rembobinez un peu pour nous, s'il vous plaît, Olivier.
Alors, Rajoy résiste depuis de nombreuses années, avant même qu'il n'accède au pouvoir. Les premiers documents ont été rendus publics en 2009. Ces révélations ont notamment conduit à cimenter le mouvement des indignés en 2011. En pleine période de crise et de récession pour l'Espagne, elles ont cristallisé le rejet, le dégoût de la vieille politique à papa, des partis traditionnels, scénario disons plutôt classique ces temps-ci, et pas seulement en Espagne. Mais du coup, depuis presque 10 ans, et le début de l'enquête menée par le juge Garzón, le même Garzón qui était parvenu, souvenez-vous, à extrader le Chilien Pinochet, depuis presque une décennie donc, les mauvaises odeurs remontent à chaque échéance électorale, ou simplement à chaque fois que l'on doit voter en Espagne. Et pour les élections générales, deux fois en 2015, puis en 2016, faute de majorité, et aujourd'hui, décider ou non, donc, de la défiance à l'encontre du Premier ministre conservateur. À chaque fois, c'est la même histoire, Fabienne, on compte les voix. Et qui tient les comptes? Quelles sont les voix qui s'avèrent décisives lorsque le temps se gâte? Celles des partis indépendantistes, les Catalans et les Basques.
Donc ce que vous nous expliquez, c'est que les partis indépendantistes tiennent leur revanche avec cette motion.
Ou qu'elle leur fournit en tout cas des arguments, des munitions pour remporter des batailles essentielles pour eux sur d'autres terrains. On parle là de 24 députés sur 350, et notamment des 5 élus du Parti National Basque. Ce club des 5 a déjà mis tout son poids dans la balance le mois dernier pour le vote sur le projet de loi budgétaire. C'était cette fois en faveur de Rajoy, en obtenant au passage 15 millions d'euros d'avantages fiscaux supplémentaires pour la région basque. Ils renversent aujourd'hui la vapeur en annonçant, ils l'ont fait cet après-midi, qu'ils voteraient pour cette motion qui condamnerait Rajoy et consacrerait le socialiste Pedro Sanchez. Les députés catalans porteront sans doute eux aussi le coup de grâce demain. On rappelle que 9 de leurs leaders sont toujours sous les barreaux, accusés de rébellion. L'Espagne est donc soumise, Fabienne, à cette négociation permanente où le rapport de force est aujourd'hui en faveur de ces micro-partis régionalistes, indépendantistes, nationalistes, et l'unité du pays que défend Madrid se retrouve conditionnée aux exigences de ceux qui réclament plus d'autonomie.
Olivier Poujade, merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter continue avec le journal, et c'est juste après ça.